Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Tilt Show. Et oui, aujourd'hui je suis avec mes deux compères Boule et Tom Tom et nous allons vous parler de nouveau, faire un petit point sur le CFEPA, vous parler des tournois qui sont en cours dans la région parisienne et aussi un petit peu chez nous, plus proche de chez nous on va dire. On va pouvoir vous aborder un point sur les clés du poker, évidemment. Et puis, on déroulera nos petites sections rubriques comme d'habitude. Je ne vous dis pas tout. Alors, on commence avec le CFEPA. Boule, fais-nous un petit point d'actualité.
Bonjour à tous. Eh ben, les CFEPA, du coup, la dernière fois, il y avait la quatrième manche qui était en cours pendant l'émission. Du coup, on a eu les résultats des manches qui sont tombées. Donc pour la poule hennoise, on a une victoire du Poker Club Noyonnais devant le Poker Club de l'Oise Chevrière et le Poker Club Lannoy. Du coup, c'est le matin le Poker Club de l'Oise qui avait gagné, l'après-midi le Poker Club Noyonnais. Et du coup, on a un classement général du coup avant la dernière étape
où on a
qui se déroule en ce moment, tout à fait. Pour à Saint-Sauveur, au Pumba, qui est pour le moment en tête du classement général, avec 9 points d'avance sur Soissons, qui occupe toujours la deuxième position. Après, on a un petit écart qui s'est creusé d'une vingtaine de points avec le Poker Club Noyonnais, qui est troisième. Pour le moment, ces trois clubs-là qui se battent pour acquérir leur place pour les demi-finales.
Combien de clubs seront en demi-finale, tu me rappelles ?
Du coup, qualifiés pour les demi-finales.
D'accord. Donc potentiellement, ils se battent, mais ils peuvent tous prétendre au titre encore.
Et voilà. Et juste derrière, justement, aussi encore dans la bataille, on a l'Étincelle qui est à 16 points de la troisième place. On a Lan qui est à 28 points. On a Gouvieux à 58 points et Chevrière à 60 points. Ça sera plus compliqué pour Anisy Pinon et Warmeryville parce que là, il y a quand même un gap de 150 points à rattraper, ce qui correspond à une victoire sur une journée. Donc,
oui, ça fait
c'est
beaucoup.
Plus compliqué pour eux déjà.
Ok, donc on a quand même trois chip leaders.
Pour le moment, on en a trois. Après,
on a quand même
les
outsiders.
Résultats définitifs du coup avec les qualifiés dans la prochaine émission dans 15 jours. Quoi.
Cool. Et puis on espère peut-être même avoir un invité parmi ces qualifiés, ça serait super.
Ça serait top. On verra qui se qualifie. Et du coup, pour la poule Somme, on a à nouveau une victoire écrasante de Resson sur la quatrième manche.
Okay, donc
encore
on sait
avec
que Resson,
une victoire
eux,
le matin et l'après-midi. Ils ont encore gagné les deux manches avec trois victoires en sit and go. Et du coup, on a un général, par contre, là, en poule Somme, qui commence déjà à prendre forme. Parce que je pense que Resson, du coup, qui est premier, avec un peu plus de 40 points d'avance sur Moreuil, mais qui ont eux-mêmes un peu plus de 50 points d'avance sur le troisième, qui est eux.
D'accord.
Donc, je pense que les deux premiers, déjà, ils ont fait un bon... Je dis même des bêtises, parce que c'est même presque 150 points d'avance pour les deux premiers sur le troisième.
Ah oui.
Ouais, parce qu'on a 641 pour Moreuil, et on a 498 pour eux. Donc, presque 150 points d'écart. Donc, je pense que pour les deux premiers, c'est presque fait. Par contre, il y a une petite bataille encore pour la troisième place, puisqu'on a Montdidier qui est à 12 points de la troisième place.
Ah oui.
On a le Full Poker Club qui est à 25 points. Et on a l'Enjoy Poker d'Amiens qui est à 47 points.
Ok, donc il y a encore une petite bataille.
Encore 4 à 4 pour. Et pareil, dans cette poule-là, je pense que pour Béthune et Abbeville, qui sont à plus de 150 points de la troisième place, on peut oublier, ça va être compliqué pour cette année.
Bon. Eh bien, écoute, on souhaite bonne chance en tout cas à ceux qui sont en train de jouer ce dimanche même. Et puis on aura les résultats finaux de ceux qui partiront en demi-finale très bientôt. On va faire un petit point. La dernière fois, on a parlé de la réouverture des cercles parisiens. On disait que le circus était ouvert tous les jours et qu'il proposait des tournois quotidiens. Tom, tu nous en dis un petit peu plus sur le circus et sur ce qu'il propose ?
Bonsoir. Oui. Il va se passer un festival le mardi 25 mars sur 5 des 1 qui nous emmènera jusqu'au vendredi avec un jour 1 à 14h et un jour le deuxième jour à 21h tous les jours. Donc on aura 5 des 1 pour se qualifier pour le D2 pour le samedi 29 mars. Un tournoi à 500 euros.
Ah oui, quand même, c'est pas un petit bail. C'est plus que ce qu'ils proposent dans la semaine, non?
Oui, c'est le tournoi le plus cher qu'ils proposent dans la semaine, oui, oui, c'est ça. On aura aussi un festival à Forges-les-Eaux.
Ah, Forges-les-Eaux, c'est où ça? C'est au-dessus de Beauvais?
C'est un peu derrière Beauvais, à trois quarts d'heure de Beauvais à peu près.
Ok, donc on change de coin, mais
direction
c'est bien comme ça.
La Normandie.
Allez, on est proche de la mer ou pas? Non, je dis des bêtises.
Alors, on se rapproche de la mer, mais on n'y est pas encore quand on est à Forges. Mais on s'en rapproche, on s'en rapproche.
Donc un festival qui se déroulera du jeudi 27 au dimanche 30 mars, qui propose un tournoi par jour. Donc le jeudi 27 mars, ça sera un super stack à 80 euros.
Oh, plus abordable déjà.
Oui, on parle de la région parisienne, forcément. Le samedi à 14h, ça sera un big stack à 100 euros. Le samedi 29 mars, ça sera un super stack à 200 euros. Le dimanche 30 mars, ça sera un régular à 100 euros. Et aussi le dimanche, il y aura un 150 euros aussi.
J'ai juste une petite question, moi. C'est quoi la différence du coup entre le big stack et le super stack?
Alors là, c'est sur Texas Poker. Donc le super stack, tu commences avec 100 000. Le big stack, je crois que c'est 50 000. Et le super, c'est 40 000.
D'accord. C'est juste le montant des structures
ouais,
en fait,
voilà.
Qui varie.
Après, vous pouvez aller directement sur le site Texas Poker où il y a tout expliqué. Les
buying, les structures, les
voilà,
jetons de départ, tout ça. Ok, mais un beau festival quand même abordable, parce que tu as dit que ça commence à 80 euros, c'est ça? Le premier buying?
Oui, c'est ça. Le vendredi 28 mars à 20h.
Et le plus cher, c'est 200. Donc on reste quand même sur des buying...
Il y en a pour toutes les bourses.
Ouais, voilà, c'est ça. Si vous avez envie de mettre plus, bah, vous pouvez aller au circus. En plus, je fais des rimes.
Oh là là, trop fort.
Nous, la dernière fois, on a eu aussi l'occasion d'aller au circus, mais à Namur. Donc, pour ceux qui habitent encore dans un autre coin de notre belle région des Hauts-de-France et qui sont plus proches de la Belgique, franchement, c'était très sympa. Voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire. On est venu pour un tournoi. Voilà, on a joué, le buy-in c'était 150 euros, donc entre deux pour le coup, mais relativement correct. Et puis non, l'ambiance était très sympa, c'est dans un casino qui est assez grand, et non, ça m'a plu en vrai. Enfin, on est au bord du fleuve et tout, enfin, c'est hyper chouette, il y a une petite terrasse si on a envie de boire un café ensoleillé. Enfin voilà, beau cadre en fait, j'ai trouvé le cadre sympa. Et l'organisation très pro, voilà, pas de problème.
Et pendant que tu étais là-bas, est-ce que tu as pu regarder un peu ce qu'ils proposaient aussi, un peu comme tournoi à côté, s'ils proposaient des tournois régulièrement ou des choses comme ça?
Oui, c'est comme le circus à Paris en fait, ils proposent des tournois quotidiens. Et deux fois par mois je crois, ou une fois par mois, ils proposent un gros festival. Donc c'est une il y a du poker régulièrement en tournoi pour pas cher là-bas.
Et est-ce que le jeu est différent dans les cercles belges par rapport aux cercles français?
En vrai, on a vu des têtes qu'on avait déjà vues au Circus Paris, donc si on rencontre quand même.
Après Paris, Namur, c'est pas si loin.
Tom, t'as un avis sur les joueurs?
Non, parce que ouais, quand t'as à Forges-les-Eaux au Circus, tu rencontres beaucoup de gens que tu joues d'habitude en fait.
C'est toujours les mêmes habitués qui se déplacent un peu dans tous les cercles, même en Belgique.
Pas toujours, mais il y en a, je pense, une dizaine qu'on croise régulièrement.
Une dizaine, ça va sûr.
Ouais, je pense.
C'est pas énorme, mais...
Sur Forges-les-Eaux, sur un fil de 80 joueurs, on va dire.
Oui, c'est pas mal.
Ouais, Forges-les-Eaux, de toute façon, 80, je crois que c'est le max. Hein. C'est pas non plus un...
Oh non, ils ont 3 salles maintenant, ils peuvent monter à 3 salles entières.
Ça fait longtemps que j'y ai pas mis les
pieds. Non, un beau casino aussi, oui.
Ouais, Forges-les-Eaux, c'est chouette. Mais en ce moment, ils n'ont rien. On en parlera peut-être la prochaine fois. Si. Ah non, c'est Forges-les-Eaux qui fait le tournoi, pardon, autant pour moi. Qui n'est pas au bord de la mer, mais... qui a des tournois entre 80 et 200 euros à venir d'ici fin mars. Ouais, non, c'est chouette. Des beaux endroits, en tout cas. Forges, le circus, que ce soit Paris ou Namur. C'est toujours des endroits agréables. on est bien reçus, donc c'est sympa aussi. Enfin, cette ambiance
encore
autour du poker.
Toujours la convivialité au centre du poker, quoi. C'est
même
c'est
si on n'est pas dans un milieu associatif, qu'on est dans des clubs privés ou dans des casinos, c'est toujours une bonne ambiance, même à table, je trouve.
C'est le plus important et surtout, il faut que ça reste comme ça toujours.
Absolument. On a fait le tour de nos festivals, du coup ?
Pour moi, oui.
Pour toi, oui ? Eh ben, c'est pour toi, oui, alors. Ça me va.
Les clés du poker.
Et la dernière fois, on vous a parlé du calcul de la cote quand on est dans un pot au poker, savoir si ça vaut le coup ou pas de rentrer dans ce pot. Et on a aussi parlé d'une autre notion qu'on va vous expliquer aujourd'hui, il s'agit de l'équité. Et Tom, c'est encore à toi.
Oh mince. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment calculer l'équité. L'équité, c'est le pourcentage de chances qu'on peut toucher sa carte après le flop. Donc voilà, le calcul est très simple, qui n'est pas précis à 100%, mais très simple. Il faut calculer le nombre d'outs que vous avez et que vous multipliez par 2. Si vous jouez la turn par 2.
Juste, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un out ?
Un out, c'est une carte qu'on joue pour améliorer sa main de départ.
Donc qui est encore dans le paquet, mais qui potentiellement pourrait sortir.
Ou qui est dans la main de quelqu'un, mais qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà. C'est, du coup, on calcule le nombre de cartes qu'on joue encore, qu'on multiplie par 2 pour la turn, et que ce chiffre-là, qu'on remultiplie par 2 pour la river. Donc, on multiplie par 4, en fait, si on est post-flop.
OK.
Donc, je vais vous prendre un petit exemple.
Allez.
On a 9, 10 off. Le flop, c'est 8, valet 3. Les couleurs, pique, carreau, trèfle.
Voilà. Ouais, donc tout est rainbow, quoi.
Voilà, tout est rainbow.
Okay.
Donc, nous jouons 8 rounds. Donc,
oui, parce que là, nous, on joue la quinte par les deux bouts, en fait.
C'est ça.
8, nous... 9, 10, valet, ça, c'est notre...
Un joueur en face nous demande une mise ou un tapis. On va dire qu'on part à tapis, qu'on est en fin de tournoi, il nous reste 10 blindes chacun, en gros, voilà. Donc, le joueur en face nous demande notre tapis. Donc, nous calculons combien de chances nous avons de
toucher,
d'améliorer notre main, en fait. Donc là, on va partir pour une quinte, parce que si nous demandons notre tapis, on pense qu'il a le valet.
Qu'il a top pair, du coup.
Minimum, ou valet 8, ou voilà.
Du coup, qu'est-ce qui va nous amener la quinte là-dessus, le 7 ?
Donc, on joue tous les 7, donc 4 7 et 4 dames. Donc, nous jouons 8 out. Donc, okay. Pour calculer notre probabilité après le flop, nous multiplions par 2 pour la turn. Donc, ce qui 16. Donne 16% et plus x 2 pour la river. Donc, ça nous met un pourcentage à 32%.
Ok. Donc, si je paye, j'ai 32% de chance de toucher ma quinte.
Du coup, une fois sur 3 à peu près.
Une fois sur 3 à peu près. Donc, ce qui est pas mal, mais qui peut être amélioré. Donc, voilà.
Justement là pour ça.
C'est
amélioré.
Discutable.
Je vais vous prendre un autre exemple. Pareil, avec 9-10, mais à cœur. Donc le flop 8 de cœur, valet et 3 de cœur.
Donc le même flop, mais du coup là, on a 2 cœurs sur le board et 2 cœurs dans la main.
C'est bien ça. Donc nous jouons encore les 4 7 qui nous proposeront une quinte. Nous jouons les 4 dames qui nous proposeront encore une dame. Mais nous rajoutons à ça l'as de cœur, le roi de cœur, le valet de cœur, le 8 de cœur, le 6 de cœur, le 5 de cœur et le 2 de cœur.
Donc on a 7 out à cœur.
En plus.
En plus des 4 dames et des 4-7.
Voilà. Ce qui nous donne 15 out. Donc, à la turn, nous jouons 30% déjà. Donc, pareil que comme si on jouait le flop. La river sur l'autre qu'on n'est pas suité.
Ah oui.
Et la river, si on joue la river, on monte à 60%. Donc, ce qui représente vraiment...
Si on nous demande notre tapis, là, on a... Plus de chances de toucher.
On a plus de chances.
30%, il y a plus d'une carte sur deux qui reste dans le paquet qui peut nous faire gagner éventuellement.
C'est ça. Donc, c'est comment ça va être. Voilà, un petit calcul du coup qui est vraiment facile à faire à table.
Oui, on arrive. Enfin, c'est plus facile de se dire combien j'ai de cartes qui peuvent me faire toucher. Ben, on sait qu'il y a 13 cartes par couleur. Donc après, c'est, on a vite fait le calcul de ce qui peut rester.
Et le calcul est le même si vous jouez un coup à la turn et qu'il vous demande une mise pour aller voir la river, excusez-moi. Et ça sera juste multiplié par 2 au lieu de multiplier par 4 le nombre de chances de toucher, en fait.
Le nombre d'out fois 2 fois le nombre de cartes qui restent à sortir.
Voilà, c'est ça, qui vous donne un pourcentage.
Si je reprends tout, du coup, après le flop, on multiplie par 4, c'est ça, pour avoir la...
C'est ça, bah, par chaque carte donnée, en fait. Donc turn, river, ça fait 2 cartes, donc on multiplie
par 4. Et du coup, après le flop, du coup, on multiplie par 4, après la turn, on multiplie par 2.
Ouais, voilà.
C'est ça.
C'est ça.
C'est simple, en fait, c'est cool.
C'est plus simple que la côte, hein.
Après, il va falloir voir aussi comment on fait de la mise en relation entre les deux, ce qu'on verra un peu plus tard dans une autre émission. Mais...
Ça, on a compris que s'il n'y a pas beaucoup à rajouter dans le pot, ça peut valoir le coup. Là, on comprend que si on a plein d'out, ça peut valoir le coup. Mais si on a moyen d'out et qu'on nous demande un peu cher dans le pot, on fait quoi, du coup?
Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Mais ça, ça faudra prendre, on prendra un peu de temps et on l'expliquera plus en détail la prochaine fois. Mais déjà, si tu trouvais que là, ça, c'est plus simple que le calcul de cote, vivement la prochaine émission.
Non, mais l'équité est vraiment simple à réaliser à une table assez rapidement pour presque n'importe qui joue au poker, on va dire. Parce qu'un multiple de 2, c'est pas non plus difficile.
Oui, ça va.
Et ça permet de prendre une décision plus rapidement et de savoir si on a une chance ou pas de toucher, en fait. C'est ça,
limite, le calcul en lui-même, c'est pas lui qui va vous prendre le plus de temps. Ce qui va vous prendre le plus de temps, limite, ça va être de compter le nombre d'outs qui peuvent faire améliorer votre jeu.
C'est ça.
Oui, après, c'est ça,
ça qui va vous amener
si
plus de réflexion.
C'est ça, voilà. Si on joue couleur, bon, là, on foule, voilà. Mais on sait qu'avec n'importe quelle main, c'est possible de calculer le nombre d'outs assez rapidement, quand même. Même en comptant sur ses doigts. Hein,
c'est une habitude. Après, on sait que sur un tirage couleur, il y a 13 cartes. Sur un tirage quinte, il y en a 8.
Donc,
après, c'est des habitudes. C'est tout le temps les mêmes chiffres qui reviennent. Encore une fois, ça a l'air impressionnant comme ça. Mais finalement, c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Et ça devient vite un automatisme.
C'est ça. Après, ce n'est pas dit que dans ce qu'on calcule, il n'y ait pas d'autres joueurs autour de la table qui ont foldé qui avaient ça.
Oui,
c'est une chance potentielle. Hein.
Ça reste que des probabilités, entre guillemets.
Ce n'est pas parce qu'on va avoir 80% de toucher la carte qu'on va réussir à la toucher, malheureusement. Hein.
Et il reste toujours les 20%.
C'est ça.
Ne pas oublier le petit facteur chance, des fois, qui peut faire du bien.
C'est sûr. Mais après, la mise en relation, ça nous permettra de savoir si, sur du long terme, c'est intéressant ou pas.
Tout à fait. Une fois qu'on aura la cote du pot, qu'on aura l'équité, qu'on saura faire la mise en relation entre les deux, pardon, eh ben, on saura si c'est vraiment intéressant de payer sur du long terme ou pas. Sur un coup, tout reste toujours possible. Mais si vous jouez 1000, 2000, 3000 fois la main de la même façon, savoir si vous allez être gagnant en jouant sur du long terme ou pas, tout simplement, en jouant tout le temps de la même façon.
Ce sont les statistiques, c'est pas...
Ça reste que des mathématiques et des statistiques.
Ça peut vous faire peur, tous les calculs et tout, mais c'est une question d'habitude. Après, c'est toujours les mêmes chiffres, les mêmes cotes, c'est toujours les mêmes trucs qui vont ressortir, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc, au bout d'un moment, c'est...
Encore une fois, c'est une dizaine de calculs et il y en a vraiment 3-4 qui reviennent le plus souvent, quoi. C'est... Donc... Un automatisme, encore une fois. Il faut se forcer à le faire au départ. C'est pas évident à faire au début. Il faut se forcer, mais une fois qu'on a l'habitude, ça vient tout seul et finalement, c'est toujours les mêmes chiffres. Encore une fois, ça fait peur comme ça parce que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de calculs, mais finalement, ça devient très vite une habitude pour le cerveau.
Même moi, j'y arrive.
C'est pour dire.
C'est que vous avez de l'espoir, chers auditeurs.
La main parfaite du Tilt Show.
La main parfaite, aujourd'hui, on a choisi une grosse paire. Alors, la dernière fois, on avait déjà choisi une grosse paire, c'était la paire de valets. Là, on va choisir la paire de dames. Et puis, on va demander à Tom et à Boule, dans des situations un peu différentes, comment on fait pour jouer cette main? On pourrait se dire que ben voilà, la paire de dames, c'est facile, c'est une premium et tout. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Tom, toi, tu aurais la paire de dames, mais tu serais en bataille de blindes. Et toi, Boule, tu aurais une paire de dames que tu aurais relancée et on t'aurait trois bêtes chauves derrière. Voilà. Donc, et tu serais pas en blinde. Donc,
voilà. Début de parole.
Début de parole. Donc voilà, on va commencer par Boule.
Eh ben, moi, du coup, en début de parole, je fais un open forcément avec la paire de dames. Je pense trois bébés.
Ok, logique.
Je me fais trois bêtes chauves par quelqu'un en position au cut-off ou au bouton.
Quelqu'un qui va avoir la position pour toi, sur toi, in fine.
Sachant qu'on a quand même enfin, on est dans un tournoi où on a quand même de la profondeur. On a 50 bébés devant nous, à peu près. Donc, j'ai mis que 3 bébés. Il envoie 50 bébés quand même devant lui. Est-ce que comme ça, quand on est en milieu de tournoi, est-ce que c'est intéressant de payer et d'investir vraiment tout sur un seul coup, en fait, alors qu'on a encore beaucoup de profondeur? Parce que moi, je pense que je trouve un fold là-dessus, parce que la plupart du temps, celui qui va nous revenir dessus avec des montants comme ça, bah, il risque d'avoir une des deux paires supérieures à nous, soit la paire de rois, soit la paire d'as. Donc moi, c'est dans cette situation-là où vraiment on open très très cher alors qu'on a encore beaucoup de profondeur, qu'on est en milieu de tournoi, je pense que folder, certes c'est un risque, parce que si on touche avec la paire de dames, c'est peut-être le moment de se mettre énorme pour le reste du tournoi et, et s'assurer une pérennité pour la suite. Mais je pense que quand même, c'est plus sécuritaire de folder. Parce que, encore une fois, je pense que 70-80% du temps, on va tomber sur les as ou les rois qui font ça. Et du coup, on va être battu sur le coup.
Et ça pourrait pas être quelqu'un qui a une paire inférieure et qui a envie de la protéger? Il se dit qu'en envoyant boîte, il va juste voler ton raise et les blindes. Et,
ça pourrait...
et puis, il a une paire de 10 ou une paire de valets ou...
Ça pourrait être. De toute façon, quoi qu'il en soit, je trouve que son move, il est mal joué, puisqu'on a encore énormément de profondeur, et partir à tapis pré-flop avec autant de profondeur...
Déjà, même s'il a les as, pour toi, c'est mal joué?
Pour moi, même s'il a les as, c'est mal joué.
Surtout s'il a les as.
Surtout s'il a les as, parce qu'il veut pas faire fuir les joueurs, il veut prendre quelqu'un avec lui, quoi. Donc moi, si j'ai open à 3 bébés, à la limite, il va me revenir... Le move idéal pour moi, ça serait qu'il me call. Mais à la limite, il peut me revenir dessus en faisant un mini-raise.
Et s'il te revient dessus, tu fais quoi?
S'il me revient dessus en mini-raise,
ouais. Tes 3 bébés, s'il te met 9.
S'il te met 8, 9, ouais, voilà.
Là, je pense que là, je trouve un call, par contre, dans cette situation.
Et pas à 4 bêtes. Parce que quand même, tu représentes les dames, quand même. C'est quand même...
Si t'open 3x,
c'est quand même une paire...
Début de parole, c'est que t'es fort, ouais.
Après, enfin, voilà, on vous l'a dit la dernière fois, vous connaissez ma position. Moi, je reste un joueur assez prudent. Du coup, je dirais non sur le 4 bêtes. Mais en effet, ça reste aussi une possibilité de faire un 4 bêtes et de vraiment savoir se situer avec sa paire de dames. Limite, ça serait peut-être l'idéal.
Oui, parce que si tu colles son 3 bêtes, pas chauve, mais son 3 bêtes.
T'en es vraiment dans le.
Je sais pas, après, ouais. En effet, en plus, si c'est juste un 3 bêtes qu'il a pas chauve, il peut très bien faire ça avec As-Roi, As-Dame, As-Valet. Donc, c'est. Voilà. Si on voit pas de grosses cartes sur le board, on va se sentir fort, mais encore une fois, s'il a la paire de rois, la paire d'As, il nous a bien attrapé déjà, quoi.
Mais tu penses que s'il a chauve, 3 bêtes chauve, il peut être quand même fort? Du coup, c'est pas forcément une middle pair ou une...
Pour moi, c'est ce qu'on dit en milieu de tournoi. Hein, c'est le bon moyen d'attraper les fiches, entre guillemets. Quoi. C'est justement quand on a détecté quelqu'un un peu fichy à la table. Si, en effet, le chauffe peut être une solution, direct, on lui prend tout. Et voilà. Donc moi, je pense que la plupart du temps, par expérience aussi, de ce que j'ai vécu sur Internet la plupart du temps.
Oui, parce que là, on parle des mains sur Internet.
Là, en effet, ça se passe sur Internet, mais du coup, la plupart du temps, par expérience, sur ce type de tournoi, ça va être... on va tomber sur une main forte. Alors, ça peut être aussi les valets. On peut être au-dessus. Hein. Mais la plupart du temps, on va quand même voir les as ou les rois en face et on va y laisser son tournoi, quoi.
en tant que joueur live, justement, ce move-là, il prouve que peut-être le mec en face, il est vraiment loose, en fait.
C'est pour moi, c'est très mal joué, de toute façon. Pour moi, c'est pas un bon joueur qui va faire ça, déjà. Quoi. C'est quoi qu'il en soit, encore une fois, avec autant de profondeur.
Sauf s'il n'est pas max, du coup.
C'est ça. Pour moi, joueur live, pour moi, joueur en réel, je pense que tu fais ce move-là dans une position où tu as les 10. 10, les valets maximum, en fait.
Et encore, même pas.
Si, parce que...
Quel est l'intérêt d'investir 50 bébés avec ça, alors que tu peux très bien voir encore 50 coups derrière?
Faire folder les autres.
Encore une fois, ça reste qu'un seul coup.
Faire folder, en fait. Parce que sur les tournois live, les gens sont capables de le faire.
Et du coup, si t'entends payer, t'as perdu.
Ah oui,
parce que là, t'es forcément derrière, quoi. Tu sais que si t'as envoyé ta boîte et que t'entends payer...
Tu joues tes 30%.
Tu vas tomber sur les as ou les rois en face et t'as perdu, quoi.
Ouais, bah, c'est ça, mais...
C'est pas tu joues des 30%, t'as rajouté 10% de plus.
Ça. Mais
ouais, tu joues moins que ça, ouais.
Mais rapport au jeu sur Internet, si un joueur fait ça, souvent, c'est qu'il est très énorme. Alors que quand tu joues en réel, c'est pas forcément le cas, en fait.
Encore une fois, tout est question du profil de joueur que vous avez en face de vous, que vous avez identifié. Là, on est quand même dans une situation, on est en milieu de tournoi. Donc, ça fait quand même 2-3 heures qu'on est assis à la table des joueurs. On a quand même réussi à cerner, normalement, les personnes qui jouent avec nous à la table. Si on n'a pas réussi à les cerner, il faut commencer à se poser des questions. je pense que sur la plupart du temps, sur un move comme ça, pour moi, en tout cas, je vais la prudence et je vais trouver le fold pour... c'est pas le moment d'investir, en fait, tout mon tournoi sur un seul coup, alors que je peux encore voir plein de coups derrière.
Moi, je te respecte, Boule, parce qu'avec les dames, jamais de la vie, je fold. Hein.
Mais après, il faut savoir ce qu'on
veut. Je peux comprendre.
Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi, si on veut être juste TM ou aller chercher Louin avec un gros stack pour prendre des risques ou pas.
Tout à fait.
Oui, parce encore que du coup, fois, en jouant la prudence...
C'est un tournoi d'un jour ou est-ce que tu joues pour jouer sur du long terme et du coup, valider un maximum d'ITM le plus régulièrement possible, même si tu ne vas sans pas chercher l'over.
Sans jamais faire de perf, ouais, mais...
Oui, si tu joues l'ITM, tu vas avoir tendance à jouer la prudence. Si tu joues la win, c'est la win ou rien. Donc tu vas peut-être payer pour maxi monstre en stack après.
Et... Exactement.
Voilà. Bon, je crois que vous savez tout. Mais dans le cas de Tom, avec ses dames, lui, il est en bataille de blinde. Donc il est en grosse blinde. Et c'est la...
Petite blinde.
Ah, t'es en petite blinde, pardon, tant pour moi. T'es en petite blinde, donc tu colles la grosse blinde.
Non, je la relance.
Ah, tu la relances, ok.
Oui, exceptionnellement.
C'est pas son style de coller à Tom, hein. C'est pas...
Si, en petite blinde tout le temps.
Moi je suis une serrure, là vous avez le joueur à gros typique.
Donc j'open deux blindes, on est en début de tournoi, une main qui s'est passée sur internet en fait. Donc j'open trois blindes ou deux blindes et demi, il me 3 bêtes à 7-5. On était à 60 blindes je crois à peu près. Moi, je...
De profondeur ?
Ouais. Et moi, je le couvrais, donc j'avais 20 blindes de plus que lui, 15 blindes de plus que lui.
C'est important aussi, ça, le fait de savoir si on couvre ou pas l'autre avant de payer.
Toujours. De toute façon, il faut toujours savoir combien chaque personne autour de la table a devant lui, quoi. C'est pour ça qu'aussi qu'on empile les jetons par pile de 10 ou par pile de 20. C'est parce que le compte doit être accessible facilement à tout joueur autour de la table.
Et du coup, j'ai eu 3 bêtes. Je prends la décision de shove direct.
Ah, c'est toi qui fais le move.
Oui, c'est moi qui shove direct, en fait, pensant que qu'il me croyait pas forcément sur une grosse main, sachant qu'on était petite blinde contre grosse blinde, donc assez rare qu'on ait deux premiums quand même dans soi. Et là, c'est un call automatique pour lui, et il me sort les as, et je perds.
Ah, mais, on retombe sur ce que je disais avant, du coup. Mais... Je tombe sur les as ou les rois.
Si t'avais été prudent comme Boule.
Ouais, non, mais sauf que là, c'est moi qui. Sauf que.
Oui, c'est toi l'agresseur.
C'est moi qui chauffe et la grosse blinde, elle a peut-être pas cru que j'avais forcément un gros jeu.
Peu importe ce qu'il a cru, lui, il a les as. Pré-flop, il va te coller tous les jours.
Oui, non, mais s'il avait pas. S'il a as 10 en grosse blinde, il est capable de le faire aussi, ce 3 bêtes. Contre une petite blinde.
C'est possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, justement, sur le 3 mètres, il peut rentrer avec As-Valet, As-Valet, As-10. Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter le coup tout de suite, en fait, pour pas vouloir jouer la paire de dames après le flop, en fait. Bah, malheureusement, il avait les As.
Et là, il s'est dit, oh, super.
Mais ça se reproduirait, je folderais pas, même en live, je pense que je folderais pas, en fait. Parce que c'est trop important de prendre un stack, en fait.
Toi, tu veux jouer la win sur le tournoi que t'es en train de jouer, absolument. Bah, peu importe que tu sois ITM ou pas, tu veux jouer la win quand t'es dessus, quoi.
Bah, l'ITM, il rentre beaucoup plus tard, en fait, moi, pour moi, en fait. C'est quand il reste... allez, on va dire 30 ou 40 minutes où tu sais que tu vas être ITM. Là, oui. Même si j'ai pas un gros stack, en fait. Mais au début de tournoi ou en milieu de tournoi, non, l'ITM, elle me traverse pas l'esprit, en fait.
Ce que tu veux, c'est monter des jetons, en fait.
C'est d'accord. Ça, ouais, pour avoir un maximum de chances de faire ta finale ou de la win, tu vois.
Ouais, je comprends. Après, c'est encore une fois, hein, c'est chacun joue avec ses stratégies et puis.
Après, bien sûr, le
envie de jouer aussi parce que
les ITM comptent au bout d'un moment. Quand je vous dis, quand il reste 30 ou 40 minutes, on le voit à peu près. Là, oui, on réfléchit à l'ITM. Mais avant, ouais, non, ça me rentre pas en compte en fait.
Toi, la prudence, c'est 40 minutes avant la bulle, quoi.
Je le prends plutôt que toi. En fait, pour moi, le tournoi, il se déroule en plusieurs parties sur Internet. Il y a vraiment la première partie avec les inscriptions tardives.
Oui, tant qu'il y a du rebuy,
là,
des choses comme
l'objectif,
ça,
c'est juste de survivre, monter des jetons si on peut, mais surtout de ne pas en perdre, hein, d'être au tapis de départ limite à la fin des inscriptions tardives. Après, il y a la deuxième phase où moi, là, je commence déjà à penser à l'ITM. Dès que les inscriptions tardives se terminent, c'est la deuxième phase, justement, entre la fin des inscriptions et l'ITM, donc toute la phase middle.
Mais ça arrive assez vite, en vrai, en live, je trouve, cette phase-là. Une fois que les gens ont fini de s'envoyer en l'air parce qu'ils peuvent rebuy ou parce qu'ils peuvent entrer tardif ou parce qu'il y a toujours des joueurs qui arrivent, je trouve que la phase entre la fin des inscriptions tardives et le début des ITM, elle n'est pas si longue que ça.
Online, ça online, va ouais, assez vite. En général, faut se dire que sur un tournoi classique, comme on peut avoir sur le Sunday ou sur des tournois les classiques de Winamax, ouais, quoi, faut se dire qu'en gros, entre la fin de l'inscription tardive et l'ITM, il y a une heure et quart de jeu, quoi.
C'est ça. Mais il y a moins de temps que la phase d'entrée tardive, en fait.
C'est à peu près équivalent, je dirais. Il y a une heure, en général, il y a une heure et demie d'inscription tardive, une heure et quart après, en trois heures, je pense qu'on est dans les ITM. Un Sunday qui commence à 20h30, en gros, les ITM arrivent aux alentours de 23h, 23h15 en général.
Exact.
Et après, pour aller gagner le tournoi, là, on rentre dans une phase très longue, une fois qu'on est dans les ITM, pour aller jusqu'à la TF. Donc déjà, la TF va arriver vers 2-3 heures du matin et va durer encore 1, 2 ou 3 heures, selon les profondeurs des joueurs. Donc
ton raisonnement, en fait, c'est si on peut pas monter des jetons pendant la première partie, la deuxième partie, on joue plus, en fait, presque, du coup. On joue que les premiums et on joue super serré et on attend que les ITM, en fait.
Non, justement, mon raisonnement, il va être de jouer pendant toute la période d'inscription tardive pour pas perdre de jetons, justement, d'être hyper serré et là, de jouer que les premiums pendant cette période-là. Et après, justement, je me suis créé une image du coup de joueur serré parce que ça fait une heure qu'on joue ensemble à la table et qu'ils m'ont vu jouer que des grosses mains et tout ça. Et du coup, là, dans la deuxième phase, en fait, c'est là où justement je vais commencer à penser ITM et là, je vais commencer à développer un peu plus de jeux, quoi.
Tu élargis un peu ta range.
Je vais élargir un peu la range. Je vais commencer à voler un peu plus de peau avec des jeux un peu moins bons.
Boule de voleur.
Je suis pas convaincu. Les auditeurs.
C'est des semi-vols, on va dire. Voilà. Je suis jamais moins, tout nu quoi dans la
il
main.
Au moins la deuxième paire pour le voleur.
Il y a au moins roi 9.
Ouais, mais roi 9, c'est une main qui gagne. Je vous l'ai toujours dit.
Non, mais c'est intéressant de voir comment on peut appréhender en fait un tournoi et avec une même main comment on peut jouer ou pas.
Donc comment la perdre tous les deux en fait, parce que là on l'a perdu tous les deux.
Oui, puisque la foldé et toi tu t'es fait avoir par les as.
Donc tu la perds et forcément. Moi je la perds aussi. Et du coup on va pas plus loin dans le tournoi chacun.
Bah si, moi je continue puisque j'ai foldé, moi j'ai continué mon tournoi. Toi non par contre.
Il avait encore 20 blindes. Ouais,
j'avais presque 15 blindes.
On n'est pas mort avec 15 blindes, on peut revenir, il n'y a pas de problème.
l'écho des tables.
Et dans l'écho des tables, aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un événement qui a fait un peu la une de tous les médias poker ces deux dernières semaines. Il s'agit de ce qui est arrivé au club Chouette Poker, le club dijonnais, qui s'est fait donc contrôler par la police des jeux et dont le président est resté en garde à vue et va être inculpé, a priori, pour organisation illicite de tournois de poker en bande organisée. J'ai eu l'occasion de lire un peu différents articles sur le sujet, d'aller lire aussi le communiqué très complet et très respectueux que Chouette Poker a déposé sur Facebook. Et puis aussi, j'ai fait un petit tour sur la charte de la Fédération française de poker associatif qui est destinée justement à donner une marche à suivre, on va dire, au club. Alors, il s'avère que Chouette Poker organisait des tournois avec des buy-in, avec des prix, qu'ils en faisaient la publicité. Et dans quel cas on est illégal ou pas ? Alors, la charte de la fédération, elle n'a pas de valeur juridique. C'est bien écrit au début. Par contre, elle est quand même là pour éclairer.
Pour guider.
Guider, voilà, merci, les assos. Et ce qu'ils disent, c'est que s'il y a 4 critères qui sont réunis, on peut être considéré comme hors la loi. Ces 4 critères, c'est la présence d'une offre publique, donc grosso modo, la publicité et le fait que ce soit ouvert à tous. Le fait qu'il y ait une présence même partielle de hasard, donc clairement le poker rentre dans les jeux de hasard, hein, c'est pas... on ne vous apprend pas ça aujourd'hui. S'il y a l'espérance d'un gain, c'est la troisième condition. Et s'il y a l'existence d'un sacrifice financier exigé par l'organisateur, donc typiquement un buy-in. Donc si on a un buy-in, une espérance de gain, qu'on est dans un jeu de hasard comme le poker, et qu'en plus on fait de la pub parce que notre événement est public, là on est hors la loi. D'après la Fédé, qui n'a donc pas de valeur juridique, je le répète, hein, c'est pas une science exacte. Et ce qu'ils nous disent à côté, c'est que pour se conformer à la loi, on peut respecter une des conditions suivantes, c'est-à-dire de proposer la gratuité totale, donc de proposer un free roll, pas de buy-in, de mettre en place l'absence d'espérance de gain, donc du coup, pas de prize pool, ou de proposer aussi un canal gratuit d'adhésion au club. Si on respecte l'une de ces 3 conditions, potentiellement, du coup, on n'est pas hors la loi. Donc, a priori, ce n'est pas ce que Chouette Poker a fait, et sous l'emprise d'une dénonciation, ils auraient été aussi enquêtés plusieurs semaines avant l'intervention de la police des jeux. Cela dit, dans un article que j'ai lu ce matin, il disait justement qu'ils allaient aller en procès, que le président de l'association avait envie de tenter le procès. Et pourquoi ? Ben, c'est son avocate qui l'a conseillé dans ce sens, parce que la loi, malgré tout, elle reste quand même floue. Il y a une zone grise, on va dire, sur ça. Et du coup, il se dit qu'il y a quand même quelque chose à tenter, parce qu'au bout du compte, il y a quand même énormément d'associations, affiliées fédé ou pas, qui organisent des tournois. Ça se passe bien, il n'y a pas de malversation, il y a pas, enfin voilà, ça reste dans un cadre amical. Et est-ce que Chouette Poker, je vais pas dire dénonçait, mais ce qui les rendait un petit peu frustrés d'un côté, c'était de se dire que, ben en fait, si on enlève ça aux associations de poker, ne pas pouvoir organiser de tournois, ben y a des gens qui sont sinistrés sur l'activité du poker, parce que par exemple à Dijon, il n'y a pas de casino à moins de 2 heures de route. Donc, si tu n'as pas de tournoi associatif, ben tu te fais un peu chier, quoi.
Tu peux pas jouer ta passion.
Pas comme on sait très bien qu'un tournoi où tu joues de l'argent et un tournoi où tu joues pas d'argent, c'est quand même pas la même chose. Tu joues pas tout à fait de la même manière.
Et on va pas se le cacher. Quand on vient jouer un tournoi de poker, l'argent, c'est quand même. On vient aussi pour ça, quoi, à la base, quoi.
Boule, t'avais fait une petite recherche aussi sur la législation.
Ouais, bah oui, tu parlais de la loi justement, et du coup, que dit la loi dans ce cas-là, quoi? Eh ben, il y a l'article L320-1 Ah, on va être précis, hein. Qui nous dit que son réputé jeu d'argent et de hasard est interdit comme tel, les opérations offertes au public, pardon, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire de l'espérance de gain qui serait due. Du coup, okay. Pas de buy-in, on en vient là, quoi.
Pas de principe.
Même partiellement. Et du coup, cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Donc, on est bien
dans ce cadre-là.
Dans le cadre du poker, où on a du hasard, même si le savoir-faire des joueurs...
Oui, ça compte, mais ça ne fait pas tout.
Et du coup, le sacrifice financier est établi dans le cas où une avenance financière est exigée de la part des organisateurs.
Donc si on demande un buy-in.
Voilà. Même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
D'accord. Donc à partir du moment où on a payé notre entrée au tournoi, même si on peut être remboursé ou quoi que ce soit,
voilà.
C'est considéré comme du coup un sacrifice financier. Quoi.
Voilà, donc ça c'est le texte de loi. Mais encore une fois, comme tu disais, on reste dans un flou juridique c'est parce que c'est un texte de loi qui date de janvier 2020. Mais je pense qu'ils ont voté un peu... Tiens, le poker ça existe, faut voter des lois. pense que ça a été fait un peu comme ça. Et du coup, je pense qu'en effet, la législation et l'encadrement autour des organisations des tournois de poker associatifs est à revoir complètement au niveau des textes de loi.
Oui, avant la mort du poker associatif, hein, parce que...
Le problème...
Les associations de poker ne peuvent pas organiser des tournois de poker, c'est quand même leur base.
Le problème, c'est que si on va chercher un peu, pourquoi l'État veut faire la guerre, entre guillemets, à ce type de tournoi ? Parce que, à côté de ça, les joueurs, ils ne vont pas dépenser leur argent dans les cercles, jouer en casino, et...
Moi, j'avais...
L'argent, l'État ne prend pas d'argent là-dessus.
L'État prend pas sa part, hein, faut pas se leurrer. Hein.
Il n'y a que l'État que ça... Ouais, encore, il prendra rien. C'est juste des tests de loi et.
Après, quand on organise un tournoi de belote ou un loto, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est un tournoi de poker.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que la loi change.
Les lois sont différentes.
Il y a du monde qui. C'est pour ça que la fédération est là, justement, pour encourager, pour avoir un porte-parole au niveau de l'État aussi. Donc.
Oui, parce qu'un tournoi de poker free roll avec rien à la gagne, on va pas se mentir, mais clairement, ça n'intéressera personne.
C'est un peu moins attirant quand on regarde l'événement.
Après,
il faut avoir envie de jouer.
Quand on joue en asso et qu'on joue toutes les semaines, c'est encore différent parce que là, du coup, on va jouer un classement.
On joue pour des points.
On joue pour des points, effectivement. C'est pas... Donc, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais c'est être le premier de son club, être dans la table des champions de son club. Ça reste une activité loisir, sympathique, ludique. Voilà, c'est différent. Aller jouer vraiment un tournoi, donc un one-shot, en fait, un tournoi, c'est... Voilà, pour rien gagner, franchement, je ne passe pas mon samedi à faire ça, quoi.
Il faut y aller avec une bande de copains et puis voilà, y aller vraiment pour le délire. Quoi. Mais c'est vrai que c'est pas...
S'il n'y a pas d'enjeu, c'est compliqué.
S'il n'y a pas d'enjeu... Bah...
Oui, parce que ça engendre des frais d'essence, des frais de manger, parce qu'on mange souvent sur place les tournois. Si on dépense de l'argent...
Bon, un petit coup...
Ça doit faire bizarre quand même quand tu organises un tournoi et qu'à 5h du mat, tu vois la police des jeux débarquer dans ta salle.
Ouais, ça a dû leur faire un drôle d'effet à Chouette Poker. En tout cas, leur communiqué, moi j'étais étonnamment surprise du ton zen et respectueux qu'ils ont pu mettre et dans l'explication des faits, en reconnaissant d'ailleurs une partie de ce qu'il leur a reproché, mais en leur disant, que
finalement, l'idée,
ça n'a jamais été d'extorquer l'État ou de devenir dehors la loi des rebelles du poker associatif. C'est pas du tout ça, c'était pas leur intention. Quoi.
Mais ils n'ont rien fait de plus ou de moins que les autres associations font finalement. Quoi. C'est juste que... Ils organisaient aussi un peu de cash game lors de leur tournoi. Ça, c'est su. Il y a eu de la dénonciation. Alors, ça leur a fait... ils ont enquêté quand même. Ils enquêtaient dessus depuis septembre 2024. Ça fait quand même plus de 6 mois qu'ils sont en train d'enquêter sur cette association. Après, il faut savoir que tous les tournois qui sont organisés, on va dire 99% des tournois qui sont organisés actuellement, ils sont illégaux.
En association. Bah, finalement, quand on lit la charte de la fédération, la seule chose vraiment sur laquelle on peut jouer, c'est soit ne pas demander de buy-in. Mais c'est compliqué d'avoir un prize pool si t'as pas de buy-in.
Puisque les gens peuvent faire des dons, mais après, enfin, on peut pas refuser un joueur qui veut jouer gratuitement, tu vois, dans ce cas-là. Du coup, est-ce que tu vas avoir un tournoi où t'auras des joueurs qui ont mis de l'argent, d'autres non ? Après, tu rentres dans un problème d'équité. Ouais. On revient à l'équité, encore une fois. Mais là, tu rentres dans un problème d'équité pour tout le monde, quoi, en fait, quoi, où tu peux pas, en fait, avoir une personne qui fait un don de 20 euros, une personne qui fait un don de 10 euros, puis quelqu'un qui se dit, ben non, moi, je viens juste pour jouer, et puis...
C'est lui qui gagne...
Et puis c'est lui qui va gagner à la fin, de toute façon.
C'est pas juste, enfin, il y a un problème...
S'il gagne le lot, pas, ouais, voilà, c'est pas...
C'est pas juste. Mais, ou alors, il faut pas que ce soit rendu public, il faut pas que ce soit une offre publique, donc grosso modo, il faut pas faire de publicité. Mais ça voudrait dire quoi ?
Ton club, c'est ça ?
Oui, juste les gens de ton club. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, demain, je veux organiser un petit tournoi entre amis à 500 balles à la maison, j'ai le droit ? En vrai, j'ai pas le droit non plus. Tu vois, c'est...
Non, normalement...
Donc, enfin... J'ai l'impression que j'ai pas le droit, là, mais...
Chez toi, en fait, t'es pas régi par le cadre de la loi 1901 et associatif, en fait.
Non.
Si tu veux, là, c'est un... Ouais, voilà, tu non, fais mais ce que tu veux avec ton
ça
argent.
Ça reste un jeu de hasard.
Ouais, mais c'est...
Non.
Ça resterait un tournoi clandestin, ça serait bizarre, tu vois. Enfin,
oui,
à partir du moment où tu fais ça qu'avec tes amis,
non,
t'as le droit de jouer au poker avec tes amis. Si t'as envie de mettre 10 balles, tu mets 10 balles. Si t'as envie de mettre 100 balles ou 2000 balles, selon tes moyens, c'est ton choix, quoi. Je veux dire, tu joues avec tes amis, quoi.
Mais malgré tout, ça reste litigieux. En fait, quand on met 10 balles, on se pose pas la question, mais si on se dit, tiens, on va mettre 500 balles, ça commence à faire bizarre. Mais pourquoi, en fait ?
Là-dessus, la loi est litigieuse, puisqu'elle n'a jamais étudié. Encore une fois, l'État, un jour, on leur a parlé, on leur a dit poker. Ils se sont dit, tiens, c'est quoi ? Tiens, on va faire des lois quand même pour... Mais je pense que ça n'a jamais été vraiment étudié. Ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été développé. Et je pense que ça mériterait de l'être. Parce qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là qui pénalise toutes les associations, du coup. Parce que finalement, là, on se retrouve dans une situation où si on veut ne rien risquer, il ne faut rien organiser. Et ça reste un problème. Après, il faut savoir que... Alors, on leur souhaite tout le meilleur au chouette poker, mais les sanctions peuvent être lourdes.
Mais oui, j'ai vu ça.
Les sanctions peuvent être lourdes. Alors, il faut savoir que ça peut être puni de 90 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Et ça, c'est juste pour le fait d'accomplir, en fait, des opérations de jeux d'argent et hasard. Voilà, c'est juste ça. Après, tout à l'heure, tu parlais de en bande organisée.
Et ça, ouais, c'est le terme c'est la mafia.
Qui est très important. Parce que là, tout de suite, on passe de 90 000 euros d'amende à 200 000 euros d'amende. Et on passe
ils sont
3 ans
à payer.
D'emprisonnement à 7 ans d'emprisonnement en peine maximale.
Oh la vache.
Donc le en bande organisée fait tout, en fait. Et les peines, les sanctions ne sont pas les mêmes.
Ah, c'est dur. Mais écoute, je leur souhaite bon courage parce que on a un. Quand on joue en asso, du coup, on a un peu l'impression que c'est eux qui vont payer pour tout le monde, comme s'ils allaient faire un exemple et du coup...
C'est un peu ça, je pense, d'ailleurs. Hein. Je pense que, voilà, on va faire un exemple avec eux, malheureusement, et je leur souhaite pas, mais...
Ça me rend triste.
Mais ouais, c'est triste.
Du coup, je voudrais revenir sur un point. On a été joué en Belgique dans une asso, dans un club associatif de poker. Et en fait, il faut savoir qu'en Belgique, il y a une réglementation qui est aussi un petit peu flou par endroit, mais qui est quand même plus limpide sur certains points. Donc, je m'explique.
Pas régi par la loi 1901, déjà, qui est associative, en fait. Quoi.
Mais ils sont quand même une asso, c'est quand même un club associatif.
Oui, mais ils n'ont pas les mêmes textes de loi que nous, en Belgique.
Non.
Du coup, ils n'ont pas les mêmes obligations, je pense.
Mais en fait, les clubs associatifs en Belgique, dans le cadre où ils sont notamment hébergés par des casinos, et je dis bien hébergés parce que c'est juste... nous, en général, les clubs associatifs, ils sont hébergés par des municipalités.
C'est ça, c'est dans les salles
dans
communales.
Dans les salles des fêtes, voilà. Là, donc si les clubs associatifs belges sont hébergés dans un casino, ils profitent du coup du lieu, potentiellement du matériel qui est sur les lieux. Mais du coup, ça leur donne aussi le droit d'organiser des tournois de poker payants. Ils ont le droit de proposer des tournois avec buy-in, avec prize pool, etc. Ils ont même le droit de garder une partie des buy-in, comme le ferait un casino. En l'occurrence, le club où on est allé, il gardait 10% du buy-in.
Voilà l'aura classique qui est pris par toutes les rooms ou tous les casinos, finalement.
Voilà. Sachant que, en fait, ils n'ont pas d'adhésion comme nous, on peut avoir en France. Si on est adhérent, enfin, si on fait partie d'une association, on va être adhérent de l'association, donc on aura. Payer une cotisation. En Belgique, les joueurs de poker ne vont pas payer de cotisation. Donc, par exemple, quand nous, on est allé jouer notre tournoi, on n'a pas payé de cotisation. Mais ce qu'ils nous disaient, c'est que finalement, du coup, il y a des joueurs qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Et au total, sur l'année, ils estiment que les joueurs reviennent au moins une dizaine de fois dans l'année. Et que ça leur ferait comme s'ils avaient une cotisation entre 45 et 60 euros par joueur et par an.
Qui reste classique finalement.
Voilà, donc on reste dans des choses classiques. Donc en fait, le fait d'avoir cadré de cette manière-là, bah, finalement, ça leur permet d'organiser des tournois, d'avoir de quoi faire tourner l'association sans demander d'adhésion aux joueurs. Donc tout le monde s'y retrouve finalement.
Et ils ont le droit de monter à n'importe quel buy-in ?
Alors, exact, il y a une petite chose là-dessus. Il faut que les buy-in restent raisonnables. L'idée, c'est de ne pas mettre les joueurs amateurs en galère. Donc, je crois que le seuil, grosso modo, c'est de ne pas monter au-dessus de 100 euros.
Ça va.
En l'occurrence, par jour et par tournoi.
Non, et par joueur dans le pays, en fait. Un joueur n'a pas le droit de faire plusieurs clubs et
oui.
De morser plus de 100 euros, en fait.
Il ne peut pas dépenser 100 euros le matin au club A et aller au club B l'après-midi et redépenser 100 euros. En théorie, il n'a pas le droit.
D'accord. Et comment ils font pour réguler tout ça ? Parce que le joueur qui se présente
c'est en théorie,
casino à Bruges et qui se présente à Namur le soir...
On t'a dit en théorie. Non, mais après, le casino, c'est différent. Là, c'est mais pas Namur, c'est en poker associatif.
Ouais, mais du coup, ça se passe quand même dans un cadre de.
Ouais, mais c'est en fait, c'est dans les poker associatifs, t'as pas le droit de mettre plus de 100 euros par joueur par jour. En Belgique.
Après, au casino de Namur,
si
c'est comme.
À Namur, c'est un casino.
N'importe. Imaginons que du coup, il y a un tournoi de poker associatif qui soit organisé à Bruges.
Oui.
Alors, tu veux pas que ça soit à Namur ou le second on va dire que le second est à Bruxelles, c'est pas grave. Peu importe.
Non, en vrai, ils peuvent pas vraiment le savoir eux-mêmes. Et... Par contre, je vais y arriver. Ce que ce club propose, c'est des buy-in à hauteur de 50 euros, avec potentiellement une recave à 50 euros. Ce qui laisse du coup le temps au joueur de pouvoir
jouer,
de pouvoir re-entry s'il a envie, sur une certaine période, effectivement. Mais ce qui du coup fait que le joueur il est un peu gardé dans le tournoi un certain temps. Donc on peut supposer qu'à une certaine heure...
Et après c'est de la théorie, ouais.
Et même au joueur qui est sorti après un quart d'heure, 20 minutes, de pouvoir revenir et de rejouer encore un quart d'heure, 20 minutes s'il n'est pas bon.
Oui, non mais voilà, après ça reste de la théorie, mais l'idée c'est de se dire que...
Mais c'est pas mal, je trouve.
S'il n'y a pas d'abus, s'il n'y a pas une asso qui commence à faire des buy-in à 300 euros trois fois par semaine, etc., ben en fait... Et a priori, ça, ben, les Belges sont assez
respectueux,
complaisants,
oui, parce que
avec
vois,
cette loi. Ça se passe très bien. Enfin,
moi, j'ai beaucoup de, je suis beaucoup là avec poker belge. En fait, en poker associatif, c'est super rare de trouver un tournoi à plus de 50 euros, même impossible presque. C'est que 50 euros.
Ce qui reste dans le cadre de leur loi, qu'ils trouvent déjà bien arrangeante, et parce qu'ils sont un peu comme beaucoup de. De professionnels de poker que j'ai pu croiser, l'idée c'est de pas encourager les joueurs à dépenser plus que leur bourse et de rester dans la prudence.
Peut-être l'État français pourrait prendre exemple sur le
poker belge,
la royauté belge à ce niveau-là et au niveau des
Absolument.
Lois, parce que c'est en effet ça pourrait être un bon moyen de réguler.
C'est un système
réguler.
Qui fonctionne bien en tout cas et
qui l'aurait dit qu'on prenne des idéaux belges.
T'es vilain.
C'est bon, là où c'est, il n'y a pas de.
Mais voilà, du coup, je trouve que c'est une bonne façon de réguler le jeu, tout simplement, et de proposer des choses aux joueurs parce qu'il y a une appétence.
Et aussi, entre guillemets, d'encadrer le poker associatif, puisque finalement, du coup, ils ont un cadre, ils ont une législation pour ça, et voilà quoi. Et du coup, c'est encadré. C'est, tout a l'air d'être clair chez eux. Tout a l'air de se passer bien, justement.
Comme bah, ils sont sur un flou de loi aussi. Hein. Faut pas,
oui, il y a aussi des
c'est
flous...
C'est pas non plus très carré, mais c'est un flou de loi qu'ils autorisent à faire ça. Du coup, tous les clubs le font. Mais, Mais ça reste, voilà.
Je pense que c'est
une. Mais ils le font chose. Pas. Mais ils le font. Ils n'ont pas besoin de se cacher pour le
non,
faire.
Non,
malgré tout, voilà. C'est une tolérance, je pense.
De faire de la pub, ils peuvent. Voilà, ils peuvent.
Tolérance. Faut pas qu'il y ait d'abus, comme dans.
Voilà.
C'est ça.
Tant qu'il y a pas d'abus, il y a pas de problème.
Voilà, voilà. La phrase du jour.
Oui.
Eh bien, je pense qu'on arrive à la conclusion de notre quatrième épisode du Tilt Show. Merci beaucoup, Boule. Merci, Thomas. Et toute
merci
façon,
de nous suivre.
Oui, merci les auditeurs, évidemment. Et on rappelle quand même, comme on le fait à chaque fin d'émission, un petit message de prévention. On le dit régulièrement, pas mettre son portefeuille à l'envers, mais le problème d'addiction peut être là. Tu nous rappelles le numéro, Boule, qu'on peut appeler ?
Alors, du coup, c'est le 09 74 75 13 13, disponible de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7.
Merci beaucoup. Allez, passez un bon dimanche, chers auditeurs, enfin, ce qu'il en reste.